Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio. Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et on est ravis bien sûr, vous en doutez bien, si vous êtes des fidèles, de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, journal d'information locale et culturelle. Voilà, j'ai vite fait faire mon lancement, vous allez comprendre pourquoi, mais néanmoins rappeler comme chaque jour comment nous suivre, la bande FM 91.3. Voilà, vous pouvez nous suivre également via notre site eau-de-radio.fr et par le DAB ou DAB+, la radio numérique terrestre. Voilà pourquoi j'ai essayé d'aller un petit peu vite, mais de vite lancer le sujet, car on va voir un journal spécial voilà, autour d'un sujet environnemental important. Et je fais un petit coucou à nos collègues de RIG, Radio Iguanodon. Voilà, dans le cadre des échanges d'émissions, voilà, on diffuse l'émission, le magazine Parlons Nature, présenté et réalisé par Michael Ballanger sur Eau de Radio. Donc vous retrouvez ce magazine à RIG tous les lundis à 18h30 et 11h15 le mercredi, si je ne me trompe pas dans le jour, mais pour le lundi c'est bon, pour la rediffusion j'ai un petit doute néanmoins, et sur l'antenne d'Eau de Radio tous les mercredis à 10h et le vendredi à 17h, et là on va retrouver exceptionnellement ce magazine car il y est à une actualité. Voilà, donc on va parler de la Cepenso Gironde qui poursuit ses actions en opposition au projet de ME2ME, qui est un projet pionnier en France de fabrication de matériaux essentiels à la composition des batteries de véhicules électriques. Mais juste avant de retrouver ce magazine, là j'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà nos prochains invités. Donc demain mercredi c'est Michel Favré qui viendra présenter sa 131e chronique astro. Jeudi on aura Christophe, un des organisateurs d'un concert à Sauveterre de Guyenne, ou là Eau de Radio, radio découverte musicale soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, et on soutient voilà les artistes, les labels, les organisateurs qui soient issus de la Nouvelle-Aquitaine, ou pour les artistes qui soient produits dans notre belle région. On est un petit peu chauvin, vous avez bien compris. Et là avec Christophe, jeudi on parlera du concert du 7 mars avec notamment Los Tres Pontos, et vendredi dans le cadre de ce même journal, voilà, il y aura un des animateurs de radio, mais pas en tant qu'animateur, qui va venir présenter eh bien une action qui a été menée ici à Senon avec le comité Ariane Sarayère. Voilà, mais je vous en reparlerai au moment opportun. À 12h30, vous allez retrouver sur notre tranche méridienne en direct au magazine les jeunes reporters européens avec nos jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes, pour un magazine réalisé en partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Et la thématique du jour en ce mardi sera la Journée internationale des droits des femmes, qui sera le 8 mars, mais ça n'empêche pas d'avoir des événements organisés ça et là. Allez, je vais m'arrêter là pour la présentation et vous laisser tout de suite avec ce magazine Parlons Nature. Je rappelle, présenté et réalisé par Michael Ballanger, donc de RIG. Ce sont des échanges d'émissions, j'insiste là-dessus. Donc vous allez entendre un siglage RIG, mais ne déréglez pas vos postes. Vous êtes bien sûr de radio et tout va être dit dans le lancement de ce magazine que l'on retrouve tout de suite.
Environnement, faune, flore, développement durable. Sur RIG jusqu'à 19h, parlons nature.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine Parlons Nature. Alors de quoi allons-nous parler ce soir ? Eh bien nous allons parler du projet M, un projet qui prévoit d'implanter une usine de conversion de nickel et de cobalt à cheval sur les communes de Blanquefort et de Parampuire. La commission d'enquête a rendu un avis favorable. Le dossier mis à disposition du public a été consulté plus de 20 000 fois. Le projet doit encore être entériné par deux procédures, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et la poursuite de l'instruction de l'autorisation environnementale. La Cepenso s'oppose à ce projet. Pour quelles raisons ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette édition.
Sur RIG jusqu'à 19h, parlons nature.
Et pour en parler, eh bien, nous sommes rejoints dans les studios par Madame Florence Bougot, administratrice de la Cepenso. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Stéphane Buil de la Cepenso Gironde également. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais, on va parler d'un projet qui fait parler de lui en ce moment. C'est ce projet M, projet d'usine de conversion de nickel et de cobalt. Alors, avant de rentrer dans les raisons de l'opposition de la Cepenso Gironde sur ce projet, petit rappel peut-être de ce qu'est ce projet d'usine.
Alors c'est un projet en fait qui doit s'installer en bordure de Garonne sur un emplacement qui est à Gradkina sur Parampuire et qui est une usine qui va s'implanter sur 32 hectares, qui va artificialiser 32 hectares et qui va convertir en fait un matériau qui s'appelle le MHP, qui est un matériau de minerai de nickel et de cobalt partiellement transformé. Qui va subir des transformations chimiques à très haute température et qui permettra de fabriquer du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt, qui sont deux sels, en fait, ça ressemble à du sel de cuisine, du sel bleu, du sel rouge, qui sont deux sels qui sont utilisés pour fabriquer, en fait, les batteries de voitures électriques qui rentrent dans la composition. Alors, je voudrais juste rappeler que c'est une usine qui est une raffinerie et que les batteries électriques ne vont pas être fabriquées à cet endroit. Les deux substances repartiront ensuite dans des usines qui fabriquent des batteries.
Alors justement, puisqu'on parle des substances, ben quelques chiffres, on va donner juste quelques chiffres. D'après les prévisions, ce sont pas moins de 20 000 tonnes de nickel qui devraient être traitées dans cette usine et 1 500 tonnes de cobalt, donc par année, chaque année, ce qui représente environ des batteries pour 400 000 véhicules, soit 20% des besoins de véhicules électriques en France. Alors, ce site industriel classé Seveso, la Cepenso s'y oppose. Est-ce qu'on pourrait faire un tour d'horizon ? On va rentrer en détail, bien entendu, au cours de cette émission sur tous les aspects de l'opposition de la Cepenso Gironde. Mais grosso modo, quelles sont les thématiques d'opposition à ce projet ?
Alors la première grande thématique, c'est l'emplacement, puisqu'en fait on se trouve à cet endroit dans une zone qui est une zone aujourd'hui inconstructible, qui nécessite donc un changement du plan local d'urbanisme, inconstructible situé dans le plan de prévention des risques inondations qui a été revu en 2023, donc récemment. Et on est dans le lit majeur de la Garonne, c'est une zone qui sert d'expansion des crues et dans lequel, en fait, dès qu'il y a des débordements ou des remontées de nappes phréatiques, l'eau stagne et se loge là jusqu'à ce qu'elle puisse être absorbée par les nappes. Voilà, donc on est sur une zone qui est une zone fragile, humide, et qui est une zone de protection de l'intégralité de la métropole de Bordeaux en termes d'inondation, à la fois des communes qui sont avoisinantes, je pense à Saint-Louis de Montferrand qui est juste en face, mais aussi de toutes les communes de la métropole de Bordeaux. Bordeaux même est protégée par toutes ces zones d'expansion des crues. Et donc le premier problème est donc l'emplacement. Le second, c'est le classement Seveso seuil haut de cette usine, qui est classé donc en critère le plus haut, pour une raison simple, qui est que les deux produits qui sont fabriqués, le sulfate de nickel et le sulfate de cobalt, et l'ensemble des produits entrants qui sont stockés, sont des produits qui sont ultra toxiques pour l'environnement aquatique. Le déversement de très peu de substances dans la Garonne aura des conséquences irrémédiables à la fois sur la faune et la flore, avec des contaminations d'eau, avec des contaminations très fortes des sols en cas d'inondation. Et donc, il paraît complètement inconcevable d'installer précisément en zone inondable une usine Seveso seuil haut. Pour cette raison, ça revient à mettre une fabrique d'allumettes au milieu d'un champ de pétrole. En gros, c'est à peu près la même chose.
Alors, qu'est-ce qui risque de polluer, en fait ? Ce sont les matériaux, le cobalt et le nickel, ou ce sont les réactifs qui vont être utilisés ?
Alors, ce sont les matériaux. Nickel et cobalt sont des substances sulfate de nickel et de cobalt miscibles dans l'eau. Ce sont des métaux lourds, le nickel et le cobalt, hein, qui sont indestructibles dans la durée et qui, une fois qu'ils sont répandus dans le milieu, en fait, restent, comme le cadmium d'ailleurs, du reste, qui pollue la Garonne aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des réactifs, on n'en parle pas assez, mais ce sont des réactions d'acide base très fortes. Et donc, il y a de l'acide sulfurique, il y a de la soude qui vont être stockées sur place et qui, évidemment, sont des matériaux qui sont toxiques pour l'environnement. Mais encore une fois, le risque principal, le risque majeur, ce sont le nickel et le cobalt qui vont être stockés sur la plateforme de Gradkina par centaines de milliers de tonnes. En fait, il faut bien comprendre que les quantités de produits sont 20 000 tonnes de sulfate de nickel et 3 000 tonnes de sulfate de cobalt fabriquées par an, qui nécessitent plus de 150 000 tonnes de produits entrants. Et donc les quantités stockées sur place, c'est des milliers de containers qui contiennent ces substances et qui sont précisément vont être déposées dans une zone qui est aujourd'hui une zone inondable. Et donc le risque zéro n'existant pas, la prudence et la précaution veut que l'implantation ne se fasse pas dans des zones de ce niveau de risque. Voilà.
Alors on va revenir dans quelques instants, dans la deuxième et la troisième partie de cette émission, sur les différentes craintes, hein, les différents sujets d'opposition. Je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est que, et vous l'avez dit, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, on parle beaucoup de Parent-Puir, de Blanquefort dans le cadre de ce dossier, mais en fait... Ce projet concerne au minimum cinq communes, pour les citer, Parent-Puir, Blanquefort, bien entendu, puisqu'on en parle, Ambarès-et-la-Grave, qui serait concernée également, Bassens et Saint-Louis-de-Montferrand. En quoi ces trois autres communes sont-elles concernées ?
Eh bien, en réalité, d'ailleurs, c'est un peu plus, parce que vous avez Ludon, Médoc à côté, vous avez Mâcon. En fait, j'ai envie de dire que toutes les communes de la métropole sont concernées, parce qu'en cas d'accident et de contamination sur la Garonne, il y a des marais en fait. Et donc le flux de l'eau va dans les deux sens, à la fois vers l'estuaire, à la fois vers Bordeaux. Et la contamination en fait de la Garonne par ces substances en fait a des conséquences sur toute la métropole. Et en termes de protection des crues, je pense en particulier là à Saint-Louis-de-Montferrand, qui est à 800 mètres à vol d'oiseau, juste de l'autre côté de l'implantation de l'usine. Vous voyez bien qu'artificialiser une zone d'expansion des crues sur tant d'hectares, c'est modifier en fait l'hydrologie complète de la zone. Et l'eau qui ne s'étale pas là, elle va forcément ailleurs. On sort d'inondations très importantes. Saint-Louis-de-Montferrand a été inondé. Bordeaux aussi a été sur certains quartiers débordé. Et donc vous comprenez bien que toute la métropole est concernée par l'artificialisation du lit majeur. Et donc en fait, cette implantation, en effet, ne concerne pas juste Blanquefort et Parent-Puir.
Alors, on va revenir bien entendu sur ces inondations hein, qu'on a connues. On y reviendra dans la troisième partie, puisqu'on va parler de ces craintes en matière de pollution. Dans la deuxième partie de cette émission, on va parler du corridor de biodiversité. Donc là, c'est Stéphane Buil qui va nous en parler. Stéphane, qu'est-ce que c'est tout d'abord ce concept de corridor ?
Alors, ben déjà, donc, ce projet aurait un impact sur, évidemment, un certain nombre d'espèces, dont des espèces protégées, et sur la fonction écologique de ces habitats, à savoir, ces habitats, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la ripisylve et des prairies, donc les forêts de bord de Garonne, qui servent donc au déplacement des animaux. Les espèces, elles ont besoin, que ce soit... pour la recherche de partenaires, pour s'alimenter, lors de la dispersion des jeunes individus, de se déplacer, parfois sur de grandes distances, et ça dépend évidemment des espèces. Et ces corridors donc, sont essentiels, et en particulièrement dans un contexte qui est très rapidement périurbain, donc avec des paysages... particulièrement abîmé, où il y a un mitage justement de ce territoire. Donc ce corridor orienté nord-sud est essentiel au déplacement des espèces, comme est essentiel d'ailleurs, puisqu'il le rejoint, le corridor ouest-est constitué par toute la vallée des Jalles. Et là, donc voilà, ça porte atteinte à ces habitats remarquables et à toutes ces espèces. Alors on a notamment le long de ce parc des Jalles, la réserve naturelle nationale des marais de Bruges, mais aussi tous les milieux autour. Alors ces espèces, ben, les plus emblématiques, ça va être par exemple la loutre d'Europe. Ça va être aussi un certain nombre de chiroptères, donc de chauves-souris qui ont besoin de ces milieux. Ben, là aussi, ils vont trouver de quoi gîter, et puis surtout lorsqu'ils se déplacent ou lorsqu'ils viennent chasser. Et c'est aussi un site potentiel pour le vison d'Europe, donc un petit mustélidé, donc famille des belettes, des fouines, etc., particulièrement rare, et donc c'est des habitats potentiels. Donc le risque, il est là. Il y a déjà eu la plateforme qui a été faite, donc un morceau de ce corridor qui a été particulièrement... qui a été détruit. Donc là, ce qui reste, c'est déjà très étroit. Donc ça va faire un goulet. Alors quand on parle, c'est un blocage physique, mais c'est aussi des blocages liés, selon les espèces, un blocage lié à l'éclairage qui sera mis en place, même s'il y a des dispositifs, bon, c'est jamais parfait, loin de là, hein, surtout vu ce qui est prévu. Des blocages évidemment liés au bruit, des blocages aussi olfactifs, hein, etc., avec rien qui est envisagé de toute façon, même dans le cadre des mesures compensatoires, pour essayer de limiter quoi que ce soit sur justement le fait que ce corridor soit affecté. Donc c'est voilà, pour toutes ces raisons, c'est particulièrement catastrophique.
Alors le projet prévoit d'utiliser 32 hectares, donc un terrain de 32 hectares. Est-ce que la superficie en elle-même impacte ce corridor ?
Oui, absolument, c'est le corridor.
En fait, les 32 hectares, ça correspond à tout le corridor.
Oui, le corridor, c'est ça ce que je viens de dire, c'est les forêts de bord de Garonne et les prairies attenantes. Après, vous avez une route, puis après, vous avez, plus au sud ou dans d'autres secteurs, vous avez d'immenses monocultures de céréales. Donc les animaux, ils longent pas la route et encore moins, ils traversent pas à découvert parce qu'ils se sentent pas en sécurité ou même de manière, pour des raisons physiologiques, et notamment les batraciens, ils vont pas... traverser d'immenses champs de maïs ou autres. Donc c'est pour ça que ces corridors sont essentiels.
Alors quand on parle de corridors, quand vous parlez de corridors, est-ce que ce sont des zones de passage, on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des zones de vie?
Oui, c'est des zones d'espèces... de vie, ce sont les deux. Oui, là ça affecte évidemment des espèces qui sont présentes déjà sur le site, hein, c'est des milieux très riches, c'est des zones humides, donc par définition c'est des habitats parmi les plus riches.
Il y a eu un inventaire qui a déjà été réalisé.
Il y a des inventaires, oui. Alors c'est un peu d'ailleurs même combat que parenthèse avec le projet Pur Salmon sur le Verdon, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire que là vous avez une zone qui a été remblayée, surélevée. Donc la plateforme est où on part du principe en fait que comme on a complètement artificialisé, qu'on a mis une barrière anti-amphibien et qu'on passe de manière mécanique régulièrement pour éviter que la nature reprenne ses droits, en fait il n'y a pas de problème. Mais ça se passe pas comme ça et heureusement, c'est-à-dire que la nature elle a horreur du vide et il y a toujours des espèces. Alors déjà les barrières c'est inefficace sur des longueurs comme ça et les espèces se réimplantent. Donc c'est là aussi c'est pas possible de raisonner comme ça.
Alors on va continuer à parler des autres sujets hein, qui parce qu'on pourrait y rester deux heures mais on n'a pas deux heures. On va parler dans quelques instants, on va revenir sur les risques d'inondation, les risques qui sont importants. D'ailleurs, on l'a vu, on va bien sûr faire le lien avec ce qui s'est passé il y a quelques jours encore, puisqu'on parlait d'inondation. Ça sera tout de suite après téléphone.
Never.
Téléphone à l'instant, vous êtes toujours à l'écoute d'RIG, Parlons Nature se poursuit. On continue à parler des sujets liés à l'opposition de la Cépenceau Gironde sur le projet M. Je vous rappelle, projet qui prévoit l'implantation d'une usine de conversion de nickel et de cobalt à cheval sur les communes de Blanquefort et de Parampuire. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Florence Bougouet de la Cépenceau Gironde. Alors Florence, on a évoqué pas mal de choses depuis le début de cette émission. On va revenir sur les craintes principales liées à ce dossier. On va parler bien entendu du risque d'inondation. Alors on l'a vu hein, ces derniers temps, le risque d'inondation, on n'est plus dans de l'hypothétique. Ça, on l'a vu par A plus B. D'ailleurs, vous avez été sur place pendant les inondations. Vous avez réalisé une vidéo qui est encore consultable sur les réseaux sociaux. Parlez-nous de ce que vous avez vu, de ce que justement risque d'arriver à l'avenir.
Eh bien, en fait, je suis allée sur zone le jeudi 19 février, jour de l'inondation après la tempête Pedro. Et j'ai constaté, en fait, que l'entièreté du champ, donc des hectares qui vont être construits, étaient couverts d'eau, en fait, principalement par remontée des nappes phréatiques, puisque la digue n'avait pas cédé. Et c'est l'occasion de rappeler ces événements climatiques qu'on vient de vivre en Gironde, que cette zone est régulièrement inondée. Il s'agit d'un marais, en fait. Les marais de Parampuire et de Blanquefort sont des réserves d'eau qui, chaque année, en fait, se remplissent d'eau, plus ou moins, en fonction des conditions climatiques. Et ce jour du 19 février, quand j'y suis allée, eh bien, malheureusement, la commune en face, qui s'appelle Saint-Louis de Montferrand, était, elle, physiquement les pieds dans l'eau, puisqu'il y a des riverains, des habitations qui ont été inondées. Le gymnase a été inondé, la cantine scolaire a été inondée. Et on voit bien, en fait, que la quantité d'eau qui était contenue dans le marais de Parampuire au moment où j'y suis allée, elle est colossale, puisque, en fait, l'eau qu'on voit en surface, qui est peut-être à ce moment-là de 20 ou 30 cm d'eau sur la surface, bon, c'est considérable, mais il faut en plus compter l'eau qui est contenue à l'intérieur, parce que ces marais sont des véritables éponges, donc on ne voit en fait que la partie émergée de l'iceberg, les nappes sont complètement saturées, et le marais est complètement saturé d'eau, en fait. Et cette éponge, en fait, si on l'artificialise demain, c'est ce qui est prévu avec ce projet, qu'on tasse la terre, qu'on la rend imperméable et qu'on l'artificialise sur tant d'hectares, et bien c'est autant d'éponges en fait qui disparaît, et l'eau qui n'est pas là, elle va nécessairement ailleurs. Alors ensuite, on peut faire toutes les études hydrologiques qu'on veut pour essayer de mesurer l'endroit où elle irait, etc. Mais il faut comprendre qu'au moment de ces tempêtes, c'est l'addition de plusieurs facteurs. On est sur une zone, en fait, qui est une zone à inondation fluvio-maritime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau vient de l'amont, mais l'eau vient aussi des marais et l'eau peut venir aussi de la force du vent. Et donc, c'est la conjonction au moment de la tempête de plusieurs facteurs. Si le coefficient de marée est très important, et on était à ce moment-là à 97, donc c'est un gros coefficient de marée, mais qu'il est adjoint avec un vent très important, l'eau peut potentiellement passer par-dessus les digues. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 99. En 99, le marais à cet endroit-là a été inondé de plusieurs mètres d'eau. C'est la raison pour laquelle il est prévu de surélever cette usine de près de 5 mètres de remblai. C'est énorme. Et donc, ce n'est pas parce qu'on aura réussi à mettre hors d'eau une usine en remblayant la surface qu'on n'aura aucune incidence sur les zones autour. Il est faux de penser ça. Et on voit bien aujourd'hui que la prudence, les années qui viennent, la pluviométrie qui augmente, nous enjoignent de privilégier la sauvegarde de ces zones quand elles n'ont pas été artificialisées, parce que ce sont des zones qui précisément protègent la population, protègent les biens existants, et qui sont des zones qui permettent en fait l'expansion des crues.
Alors, une zone tampon, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les zones tampons, donc qui permettent de stocker ces eaux de pluie, ces eaux fluviales. Donc là, si je comprends bien, c'est une île qu'on va construire, en fait.
C'est ça. En fait, on va construire une espèce de château fort surélevé qui, effectivement, se retrouvera, en cas d'inondation, comme une île artificielle. Hein, il n'y a pas d'île à cet endroit, comme une île artificielle au milieu du marais inondé. Et donc, précisément, vous imaginez bien que quand vous mettez 500 000 mètres cubes de remblai, c'est ce qui est prévu, vous prenez la place de 500 000 mètres cubes d'eau. Et donc, les quantités, en fait, stockées dans ce marais, elles doivent forcément se stocker ailleurs.
Alors, outre le stockage de l'eau, il y a également un autre sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était le risque de pollution. En cas d'inondation, ça peut multiplier le risque de pollution, de facto.
Bien sûr, il faut imaginer que potentiellement dans les années à venir, la zone de stockage peut se retrouver inondée. Il faut aussi imaginer qu'un accident au moment du transport de ces containers est tout à fait possible, hein, soit un container qui se renverse, un container qui tombe à l'eau, une mauvaise manipulation, un acte éventuel de malveillance, ça peut aussi arriver. Et on a stocké, en fait, on prévoit de stocker à cet endroit précisément ce qui ne doit pas rentrer en contact avec l'eau. Et donc précisément, au lieu de minimiser le danger, on est dans le lit majeur de la Garonne, hein, on le maximise. Jamais le lit majeur de la Garonne ne va se déplacer, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ces zones qui n'ont pas été artificialisées dans les années 60-70 et jusqu'à nos jours sont une chance aujourd'hui pour la population. Et je crois que les incidents climatiques de plus en plus fréquents nous enjoignent à justement protéger ces zones et ne pas y stocker de matières dangereuses parce que l'inondation est possible. Je pense à la vallée du Rhône où on est en train de désartificialiser le lit majeur qui a parfois été artificialisé justement pour redonner de la place aux crues, pour redonner de la place à l'eau et pour limiter en fait la vitesse d'écoulement. Bon, je me dis à cet endroit, à Bordeaux, on envisage exactement l'inverse de ce que tout nous est expliqué.
Alors la Cépenceau-Gironde continue de s'opposer à ce projet. Où en êtes-vous à l'heure actuelle et qu'est-ce que vous projetez? Quel type d'action vous projetez?
Alors la Cépenceau continue de s'opposer évidemment. On a déposé un recours au Conseil d'État contre le décret d'intérêt national majeur signé le 5 septembre pour ce projet. On a aussi déposé un recours pour que le SCOT bioclimatique précise en fait que cette zone ne peut pas être une zone industrialo-portuaire ou économique sur 32 hectares. Je rappelle que le SCOT bioclimatique qui est entré en vigueur le 11 décembre protège strictement cette zone à titre d'ENAF, c'est-à-dire de zone naturelle agricole et forestière. Ce qui est une très bonne chose et qui reconnaît en fait l'intérêt naturel et hydrologique de la zone. Et puis évidemment, on attend la suite et on se prépare à attaquer les actes administratifs qui permettraient l'implantation de cette usine. On demande aussi explicitement, et on n'est pas les seuls, la population aussi, à ce que un vote métropolitain ait lieu à propos de ce projet, justement sur la modification du PLU et sur le retour de l'enquête publique, vote qui devrait normalement se tenir avant le 17 avril et qui malheureusement, compte tenu des élections, a l'air compliqué à mettre en place. Mais il nous semble que démocratiquement, il n'est pas possible de ne pas se positionner sur ce projet précisément et de laisser passer les choses par un accord tacite.
Voilà. Oui, alors effectivement, on rappelle que ce terrain de 32 hectares est à l'heure actuelle non constructible, hein, vous l'aviez précisé, et qui nécessite donc effectivement une modification du PLUI de Bordeaux Métropole. Donc, pour l'instant, rien n'est acté.
Non.
Par contre, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais effectivement, ce type de projet, si on décide au nom d'une souveraineté nationale en matière énergétique, alors c'est non sur Gratkina, mais est-ce qu'il y a des endroits qui peuvent accueillir ce type d'usine?
Mais bien sûr, il y a en France 14 000 friches industrielles abandonnées qui sont répertoriées par le CEREMA. Il y a forcément des friches à proximité d'endroits qui fabriquent des batteries, parce qu'il faut bien comprendre là, en fait, qu'on retransporte à nouveau sur des milliers de kilomètres des substances. On fait venir les minerais de 15 000 kilomètres de distance d'Indonésie. On va les faire revoyager pour aller en Suède, dans le nord de la France, etc. Et je pense que là aussi, en termes de décarbonation, il faut réfléchir. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas sur les 14 000 friches industrielles en France, une friche industrielle qui puisse correspondre à l'implantation de ce projet. On est parti pour artificialiser une zone naturelle intacte. C'est complètement aberrant. Et dans le lit majeur de la Garonne, ce qui multiplie les risques et les dangers pour les gens qui habitent autour. Et donc, non, il y a un meilleur emplacement, c'est une évidence.
Très bien, on arrive en tout cas au terme de cette émission. Merci beaucoup Madame Bougaud d'être venue pour parler de cette opposition de la CEPENSO Gironde à ce projet d'implantation d'usine de conversion de nickel et de cobalt sur les communes de Blanquefort et de Parampuire. D'ailleurs plutôt Parampuire que Blanquefort puisque c'est plus sur la commune de Parampuire.
Oui, c'est ça. C'est, en gros, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est massivement sur la commune de Parampuire. Il y a un tout petit morceau sur Blanquefort.
En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons Nature avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique.
Environnement, faune, flore, développement durable. Sur RIG jusqu'à 19h, Parlons Nature.
Écoutez les jeunes reporters européens. Chaque mardi, de 2h30 à 13h, sur Eudo Radio.
En partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Eudo sur la fréquence 91.3 FM dans l'émission Jeunes Reporters Européens en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Nous sommes des volontaires européens à la Maison de l'Europe dans le cadre du Corps européen de solidarité et chaque mardi, nous avons l'opportunité d'animer une émission sur Radio 2 sur un sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne directement, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Alors, on ne va pas faire une émission de spécialistes, l'idée c'est plutôt de discuter entre nous comme on le ferait entre amis. Et je suis très contente d'être entourée aujourd'hui des trois invités et amis, Sarah, Léa et Clara. Bienvenue, ça va ?
Bienvenue !
Ça va très bien, oui. Et toi Pilar ?
Ça va, merci. Et ok, bon, avant de parler du présent, j'aimerais qu'on remonte un peu dans les temps. Parce que le 8 mars, on les voit partout, mais on oublie souvent que cette journée vient des luttes sociales très concrètes, comme les luttes ouvrières pour les suffrages universels féminins en Amérique du Nord et en Europe au début du XXe siècle. Mais actuellement, quand vous entendez 8 mars, vous ressentez quoi, Léa ?
Alors pour moi, c'est une journée qui est plutôt une journée de lutte. Et d'habitude, je vais à des manifestations avec mes amis pour protester pour nos droits. Parce que moi, j'ai habité à Berlin, en Allemagne, et on a commencé à dire « Feministischer Kampftag », c'est-à-dire « journée de lutte », plutôt de dire « journée des femmes », juste. Et ça illustre un peu cet aspect de lutte. Mais après, pour moi, c'est aussi une journée de fierté pour toutes celles qui s'identifient comme femmes. Et je trouve qu'être fière, c'est aussi une forme de résistance contre les violences qu'on subit en tant que femme. Du coup, oui. C'est une journée de célébration, mais aussi de lutte pour moi.
Oui, tout à fait. Et moi aussi, je me rappelle d'aller aux manifs depuis longtemps. Et j'ai rappelé à qui écoute que ce dimanche, 8 mars, il y a une grève et manif à Bordeaux, si vous voulez participer. Mm-hmm. Ok. Et souvent, on ne se réveille pas un matin en se disant « et aujourd'hui, je deviens féministe ». Du coup, je trouve intéressant de demander quand tout ça a commencé pour vous.
Oui, pour moi, je viens d'un petit village dans la montagne et être féministe, ça n'a pas vraiment existé quand j'étais petite ou je ne l'ai pas vu. C'était pas quelque chose que mon milieu m'a transmis. Mais au niveau de la famille, j'ai grandi avec un frère et j'ai jamais eu l'impression que mes parents, que nous deux avons été traités différemment par mes parents. Donc chapeau à mes parents.
Également les parents de Sarah.
Mais au fur et à mesure, en tant qu'ado, j'ai appris sur des inégalités entre femmes et hommes, au niveau de la rémunération par exemple. Mais j'ai aussi remarqué que je suis parfois pas pris au sérieux en tant que jeune femme et ça m'a mis en colère. Et au lycée, j'ai rencontré, c'était la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui a déclaré ouvertement qu'elle est féministe. Et c'était ma prof d'histoire et avec elle, on a analysé des articles des journaux sur la politique, les programmes électoraux, par exemple, avant les élections. Et ça m'a véritablement ouvert les yeux parce qu'elle a montré comment les inégalités des femmes entre femmes et hommes sont sont intégrées dans notre société aujourd'hui. Et ce n'était pas sous le cadre féminisme. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. C'était plutôt intégré au quotidien et dans notre analyse quotidienne. Je trouvais que c'était une approche assez adaptée.
Oui. Oui, et parfois, pour moi, par exemple, c'est une remarque, une injustice. Parce que quand j'étais petite, j'ai commencé à y réfléchir, surtout en comparant différents traitements entre les garçons et les filles dans l'école. Si vous étiez un garçon qui ne tenait pas en place et parlait toujours fort, c'était considéré comme normal, genre typiquement des masculins, boys will be boys.
Je déteste le boys will be boys. Oui. C'est une excuse en fait pour comporter comme...
Oui, c'est ça.
Je sais pas, c'est... Oui. Non, oui. Je déteste la phrase.
Pareil.
Et par contre, si vous étiez une fille qui prenait trop de place ou attirait trop de l'attention, c'était très mal vu. Et on parle beaucoup de grandes inégalités salariales aux politiques, mais au quotidien, comme tu as dit, Sarah, il y a aussi des réflexes qu'on développe sans s'en rendre compte, comme tenir ses clés dans la main la nuit, envoyer un message quand on rentre chez soi.
Oui, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Bah, pour moi, en général, je crois c'est une autre chose parce que pour moi, je suis vraiment passionnée par le sujet, mais particulièrement le sport parce que j'ai grandi dans une famille très sportive. Donc, je pratique du sport toute ma vie. Mais comme je viens d'une petite vie, tout comme Sarah, c'était assez différent, je crois. En fait, je faisais beaucoup de sport avec des garçons. Par exemple, à 14 ans, je commençais à jouer au hockey, ce qui est très tard, et plus tard. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas commencé plus tôt, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe féminine disponible dans ma ville natale, parce que la ville était plus petite, pour laquelle je pouvais jouer. Mais ils ont fini par créer une équipe féminine plus tard, celle que j'ai régente. Cependant, je jouais aussi avec des garçons pour progresser plus vite, simplement parce que notre équipe féminine était vraiment petite. Il n'y a pas de ressources aussi et des opportunités dans le club. Ensuite, j'ai dû trouver un nouvel club avec une équipe féminine qui disposait de bonnes ressources et de meilleures opportunités pour progresser davantage. Le hockey sur la glace est considéré comme un sport dominé par les hommes en général. Et on va parler de ça plus tard pour le jouet olympique aussi. Et toutes les femmes avec qui j'ai joué, ont joué avec des garçons en grandissant. C'est vraiment normal pour les filles qui jouent au hockey de jouer avec le garçon quand ils sont plus petits. Car nos vies n'ont pas des équipes féminines dans leur club. Donc, l'inégalité qui existe dans le sport est insupportable, à mon avis. Et la Suède est censée être l'homme de pays le plus équilibré au monde. Mais ça, dans le sport, c'est autre chose.
Ça m'étonne un peu que c'est en Suède, c'est aussi le cas qu'il y a cette inégalité dans le sport.
Oui, et c'est avec le foot, il y a beaucoup d'équipes féminines, mais pour d'autres sports qui sont vraiment pour les hommes, comme le hockey, il n'existe pas.
Oui.
Et est-ce que vous avez aussi cette impression que certaines habitudes sont devenues normales alors qu'elles ne devraient pas l'être, comme tu disais, Clara, de par exemple ne pas savoir n'avoir pas une équipe féminine pour jouer au hockey?
Oui, moi je trouve que en tant que femme, nous sommes souvent conditionnées par la société de dire tout le temps, oh je suis désolée, de s'excuser, de dire si ça pose pas trop de circonstances difficiles. Et je trouve que c'est il y a une différence entre les femmes et les hommes parce que la plupart des hommes cis vont juste dire ce qu'ils veulent dire. Sans penser s'ils vont être considérés comme trop demandants, trop opiniés. Et ça ne veut pas du tout dire que toutes les femmes sont timides et tous les hommes sont trop confidents, pas du tout. Mais ce sont des tendances et il y a des attentes liées au genre. Et par exemple, une autre de ces attentes, c'est que les femmes vont assumer la plupart des tâches qui sont à faire à la maison. Et bien sûr que c'est en train de changer, mais je vois quand même souvent que quand une femme fait quelque chose pour ses enfants, que c'est considéré comme évident parce que c'est la mère, mais quand un homme le fait, c'est le père.
c'est quelque chose de...
C'est célébré.
Oui, il faut l'applaudir. Par exemple, une maman qui amène ses enfants au parc, c'est normal. Mm. Mais si le père le fait, c'est waouh, mais tu prends vraiment du temps pour tes enfants.
Oui. Et on regarde et dit, oh, waouh.
Ouais. C'est un père engagé, mais ça devrait être normal.
Oui.
Et oui, on parle souvent de la mental load, la charge mentale qui reste toujours chez les femmes et pas les hommes, je trouve.
Mm. Tout à fait, j'ai remarqué ça aussi. Ce qui continue à me frapper, c'est aussi la normalisation de la sexualisation des choses du quotidien. Mmh. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal des gens qui dotent des valeurs sexuelles ou imprègnent de sexualité à une chose étrangère au sexe. Et le cible, c'est souvent des femmes. Par exemple, je me souviens quand j'avais... À 15 ans, j'étais à la piscine avec une pote et on a mangé de la glace à l'eau. Et deux hommes nous ont passé et crié « Ah, vous êtes très doués pour ça !»
C'est dégueulasse.
Et ça, c'est horrible. Et depuis cet incident, je ne peux plus manger une glace à l'eau sans penser à ce commentaire.
Non, mais Sarah, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Mais je trouve qu'on a tout... On a toutes eu des expériences un peu comme ça. Mmh. Parce que moi, par exemple, c'est un peu bête à dire, mais j'ai honte quand je mange une banane en public. Parce qu'il y a, des hommes qui vont te regarder bizarrement. Mais franchement, je veux juste manger tranquille. Mmh. Et c'est horrible quand on nous fasse sentir ça. Après, je trouve important qu'il faut dire que c'est aussi racisé. Parce qu'il y a des études qui montrent que des filles... et je dis des filles et non des femmes qui sont noires sont encore plus sexualisées dès le jeune âge comparé à des filles blanches. Mm-hmm. Mais oui, en général, on a tous vécu ça. Et ça peut être juste des hommes qui sifflent aux femmes quand elles marchent dans la rue. Clara, nous, on a vécu ça il n'y a pas longtemps. Non, c'était horrible.
À Bordeaux, en fait.
Il y avait un homme qui a dit « miaou » quand on marchait dans la rue, mais c'est... Oh. Mais c'est dégueulasse.
Mais il était une chat, non? Ah, mais pourquoi t'as dit ça?
Ouais.
Non, mais c'était ridicule.
Non.
C'était dans le centre, à Bordeaux.
Ouais.
Et Léa a dit « Fuck off !»
Ouais.
As she should.
Ah, désolée, on va pas dire ça. Bah, oui, et je suis d'accord tout à fait. Et les femmes subissent beaucoup de discrimination et puisque le jeu olympique vient de se terminer, et moi, je gardais tous les jeux olympiques, et j'ai besoin de soulager quelque chose de ma poitrine. Tout d'abord, je me remets encore du fait que les équipes nationales suédoises de hockey sur glace masculin et féminin ont perdu contre les États-Unis. Mais nous passons à notre chose.
Ça l'a vraiment touchée.
Elle est très amusée.
C'était une journée triste.
C'était une journée triste pour le pays Suède. Mais ça va. En fait, le sujet, c'est que ce qui se passait, ils ont fini par gagner le tout, l'équipe masculin et féminin pour les États-Unis. Ils ont fini par gagner le tout. Mais le président des États-Unis, alias Donald Trump, a appelé l'équipe masculine pour le féliciter et le inviter à la Maison-Blanche. Lors de ces appels, il fait une remarque sexiste, minimisant les femmes en tant que l'athlète professionnelle. Le pire, c'est que toute l'équipe masculine a ri de sa blague.
Ah oui.
C'est partout sur les réseaux sociaux et l'équipe féminine a ri en refusant l'invitation pour le président aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu la vidéo?
Oui, j'ai vu la vidéo.
Ça me dit quelque chose, oui.
Oui, je l'ai vu, mais honnêtement, ça ne me choque pas. Et c'est ça qui est triste, que c'est assez normalisé d'agir comme ça.
Oui, et surtout de Donald Trump. Ouais.
Et l'équipe féminine a gagné aussi.
Oui, oui. Non, c'est injuste.
C'est injuste. Ouais, c'est ridicule.
Vrai. Mais OK, on va faire une petite pause avec Labor de Paris Paloma, une chanson qui critique les relations déséquilibrées et la charge émotionnelle souvent invisible portée par les femmes. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go. And
dive into the waves below. Who tends the orchard? Who fixes up the gables? Emotional torture from the heavy high table. Who fetches the water from the rocky mountain spring? And walk back down again to feel your words and a sharp sting. And I'm getting fucking tired. The capillaries in my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, you sure made me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You made me do too much labor. Busy lapping from flowing cup and stabbing with your fork. I know you're a smart man, I know you're a smart man. And weaponized the false incompetence, it's dominance under a guide. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional
finger 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. The complaints in your eyes are bursting. If our love arrives, then it's bursting. Just a son of God, it was my savior. Sure that he did a whole lot of labor. 24/7 baby machine, so he can live out and just pick up his dreams. It's not a sad and toss of your chamber. You make me do too much labor.
Ok, nous sommes de retour. Vous écoutez Radio O2 sur la fréquence 91.3 FM et nous sommes de jeunes reporters européens. Ok, il y a aussi des sujets très simples mais encore entourés de gêne ou de honte, comme les règles. C'est quelque chose que la moitié de l'humanité vit et même si c'est naturel, reste tabou. Pourquoi, selon vous, on a encore autant de mal à en parler ouvertement ?
C'est une bonne question. Je dois avouer, je pense que c'était pire quand j'étais plus jeune. À l'école, on s'est gêné d'aller aux toilettes avec des produits menstruels. Mais maintenant, ce qui me marque toujours, c'est quand je parle à mes potes, qui sont des hommes, sur des règles, ils ne savent presque rien. Donc oui, je pense que je peux parler de mes règles ouvertement. Mais les connaissances sur ce sujet de l'autre moitié de l'humanité sont choquantes, en fait. Parce que plein de femmes ont du mal à travailler, à juste exister pendant leurs règles. Donc, il faut que l'autre moitié comprenne ce qui se passe pour comprendre, peut-être pour aider, pour soutenir. Et ça me surprend pas qu'on n'a pas une politique favorable au niveau des règles qui permet aux femmes des jours de congé dans le cas de la douleur,
Oui, je suis d'accord, Sarah. Je sais qu'on avait en parlé en Espagne pour avoir du congé pour les règles, mais je pense que ça ne s'est pas réalisé, Sarah.
Non, ce n'était pas mis en œuvre.
Ok. Et oui. Ouais, c'est dommage. Mais oui, pour revenir sur ce que tu as dit en ce qui concerne la honte autour des règles, moi aussi, quand j'étais à l'école, j'avais vraiment honte. Mais après, je pense que c'est aussi un peu une question de confiance en soi parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais déjà, je dois souffrir à cause de mes règles et maintenant, ça me fait un peu de plaisir d'annoncer surtout à des hommes que j'ai mes règles pour briser les tabous un peu.
Oui.
Mais... Bien évidemment, on a du mal à en parler parce que les hommes disaient pour des siècles que ce n'était pas leur souci et que ça ne les concerne pas. Mais je trouve que c'est le contraire, en fait, parce que c'est le cycle reproductif et sans ça, ils ne seraient même pas là. Je trouve ça juste logique qu'on en parle tous et vraiment tous.
Oui.
Oui, je suis d'accord avec toi et ça m'a surprise aussi. Chaque fois, je dis ou je parle avec mes potes qui sont hommes, mais... Il ne comprend rien.
Non, il ne comprend rien.
Oui, et on a étudié dans l'école, mais juste on peut. Juste ouais. On peut. C'est vraiment ça. Ça, je crois, c'est un problème. C'est vraiment un problème parce que pendant l'école, c'est obligatoire d'étudier je sais pas, dans la biologie et oui. Parler de ça, mais c'est pas vraiment grand chose.
Non.
Et à propos de quand on va chez les médecins, on entend de plus en plus des témoignages de femmes qui disent ne pas avoir été prises au sérieux médicalement. C'est devenu normal d'entendre « vous exagérez, c'est dans votre tête » ou « il n'y a pas de solution pour ça ». Quelles ont été vos expériences lors de vos consultations médicales concernant un problème de santé féminine ?
Moi, je suis très passionnée sur ce sujet parce que chaque femme que je connais, chaque fille et femme, indépendante de sa situation lorsque la visite routine à la gynécologue, a été recommandé ou prescrit la pilule. Oui, je comprends que la pilule était une grande révolution féministe dans les années 60, mais aujourd'hui, on a plein de connaissances sur les effets indésirables et être presque obligé de prendre la pilule, ce n'est pas la libération féministe. Et une manière féministe de gérer la contraception, ça serait d'avoir le vrai choix entre différents moyens de la contraception, d'être écoutée et conseillée par un ou une gynécologue et surtout de ne pas avoir tous les poids concernant la contraception sur ses épaules. La contraception, elle doit être une responsabilité partagée. Et le fait que la pilule pour les hommes n'a pas été introduite à la fin, en raison des effets indésirables et révélateurs. Parce que pour les femmes, les effets indésirables sont OK, mais pour les hommes, pas. Bah, quelle hypocrisie,
ouais, c'est vrai. Non, tout à fait. Et moi, personnellement, j'ai des règles assez douloureuses, et ça, pas depuis hier. Mais quand je vais chez la gynécologue, tout ce qu'on me dit, c'est de prendre des ibuprofène. Et si ça n'aide pas, ce qui est le cas chez moi, c'est la seule solution, c'est de prendre la pilule. Et j'avais toujours dit non à ça parce que je ne voulais pas. Mais ensuite, évidemment, j'ai continué à souffrir chaque mois quand j'ai mes règles. Et du coup, je me suis dit que ce n'est pas possible, que je pleure de douleur dans mon lit tous les mois. Mmh. Et je suis retournée chez la gynécologue. Et maintenant, je prends la pilule. Et oui, je comprends tout à fait que ce n'est pas bien de prescrire la pilule à tout le monde. Et je suis bien consciente qu'il y a des effets secondaires. Mais après, je trouve aussi qu'il faut dire que la pilule peut vraiment améliorer la situation pour des gens qui ont des règles douloureuses ou des maladies, comme l'endométriose, par exemple. Et en fait, tous les médicaments ont des effets secondaires. Et c'est aussi le cas pour la pilule. Et pour l'instant, la pilule me va très bien. Mais oui, je suis bien sûr d'accord avec toi, Sarah, que ce n'est pas bien de juste prescrire la pilule à toutes les femmes. Et comme ça, leur donner toute la responsabilité de contraception, qui est bien évidemment aussi la responsabilité des hommes.
Oui, tout à fait. Je ne voulais pas dire que la pilule en elle-même est une mauvaise chose. Je voulais plutôt mettre en lumière le fait qu'elle est prescrite sans débat.
Oui, je suis d'accord, tout à fait.
Et toi, Clara, t'en penses quoi ?
Bah, pour ma part, j'ai eu de très bonnes expériences, mais j'ai une amie qui vit dans une ville où la clinique a une très mauvaise réputation. Elle a donc dû changer car l'expérience était très mauvaise. Les gynécologues étaient impolis et vraiment insensibles, mais mon gynécologue était vraiment super et je parlais avec elle dans ma situation. Et pour moi, c'était vraiment incroyable parce que j'ai pris une décision dans la grande séparation qui était vraiment la bonne choix pour moi et je suis vraiment heureuse, mais je sais que c'est pas la même chose pour autres femmes parce que l'expérience dans la clinique ou avec les gynécologues était pas la même chose.
Oui. Et à propos de féminisme international, on peut plus parler d'une seule expérience féminine. Entre culture, classe sociale, origine, orientation, les réalités sont très différentes et très souvent, certaines luttes semblent plus visibles que d'autres. C'est une question très difficile à aborder dans une émission de 30 minutes, mais comment faire un féminisme qui inclut vraiment tous les mondes? Et pour vous, est-ce qu'on parle parfois trop de certains combats et pas assez d'autres?
Oui, alors tout d'abord, d'un point de vue historique, le féminisme n'a pas toujours été très inclusif du tout. Les premiers mouvements féministes aux États-Unis, le mouvement des suffragettes, c'est-à-dire le mouvement pour le droit de vote pour les femmes, elles voulaient le droit de vote surtout pour les femmes blanches. Et ça met bien en lumière que tous les mouvements féministes ne sont pas inclusifs. Les femmes noires étaient dans ce qu'on appelle la « double jeopardy », le double danger, en français, à cause de leur identité en tant que femme et en tant que noire au même temps. Et cette oppression-là est expliquée par le terme « intersectionality » ou « intersectionnalité », un terme inventé par Kimberly Crenshaw dans les années 80, qui dit que les oppressions se multiplient. Après, il n'y a pas que la dimension raciale, il y a aussi la question de féminisme qui exclut les femmes trans, je ne sais pas comment dire en français. Y a par exemple l'exemple de J.K. Rowling qui est ce qu'on appelle un TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Du coup, oui, pour moi, si le féminisme n'inclut pas toutes les femmes partout, ce n'est pas un vrai féminisme.
Et un autre exemple révélateur, je trouve, est celui de l'Amérique latine. J'ai travaillé un peu sur ça pendant ma licence. L'Amérique latine a quand même plusieurs présidents qui sont des femmes et plein de mouvements féministes. Mais de l'autre côté, c'est une région avec un taux de violence contre des femmes extrêmement élevé. Donc, comment comprendre ce paradoxe? Ma hypothèse, c'est que les présidents et les mouvements féministes ont eu un vrai impact sur le niveau de la loi. Mais ces lois ne ciblent pas les causes de la violence contre les femmes et ne permettent donc pas de la réduire. Les causes sont par exemple le machismo, ça veut dire des manifestations d'une masculinité exagérée chez les hommes, qui ont une longue histoire dans la culture latino-américaine, mais aussi la crise économique et l'inaction du gouvernement. Donc oui, je suis d'accord, parfois le féminisme a essayé d'améliorer la situation des femmes par un seul levier, par exemple la loi. Mais il y a d'autres leviers qui sont nécessaires. Et peut-être ces leviers sont plus prononcés ou plus nécessaires dans d'autres parties du monde.
Oui, c'est très intéressant, ça, ce paradoxe. Et on écoute maintenant Liquid Smooth de Mitski, une chanson qui questionne la place de la jeunesse et de la beauté féminine dans notre société. À tout de suite.
Touch
Ok, nous sommes de retour. Vous écoutez Audio Radio sur la fréquence 91.3 FM et nous sommes les jeunes reporters européens. On continue. Certains anthropologues, comme Lewis Henry Morgan, expliquent que les premières sociétés humaines n'étaient pas forcément patriarcales. Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement imaginer une autre organisation sociale ?
Alors moi, j'aimerais bien parler un peu des sociétés qui n'ont pas été patriarcales avant le colonialisme occidental, notamment en Aotearoa, le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Parce que pendant ma licence en sciences politiques, j'ai fait un module, un cours sur les féminismes transnationaux. Et dans mon essai, j'ai écrit sur un concept qui s'appelle Manawahine. Manawahine, c'est un terme maori qui est un peu difficile à traduire, mais en gros, c'est un mouvement qui a pour but de libérer les femmes maori de la double oppression, dont j'ai déjà parlé avant, d'être une femme et en même temps d'être maori. Et ce que je trouve important, c'est qu'avant que les Européens étaient arrivés en Nouvelle-Zélande, la société n'était pas patriarcale. Il y avait des différences entre les genres, mais ces différences n'étaient pas du tout hiérarchiques. Et c'est ça la chose qui est importante. Par exemple, les femmes blanches pendant la colonisation étaient la propriété de leur père et après de leur mari, mais ça n'existait pas du tout dans la société des Maoris. Et en plus, la culture des Maoris n'est pas binaire en ce qui concerne les genres, c'est-à-dire que ça va au-delà du simple binaire homme-femme, qui est souvent considéré comme donné dans nos sociétés occidentales ici, ignorant des personnes trans. Du coup, oui, il y a d'autres formes d'organisation sociale, et je trouve que ça donne quand même un peu d'espoir pour se dire, oui, il y a des formes différentes, des modes différents de vie.
Oui, et si ça a été construit, alors ça peut être
ça
aussi
peut être déconstruit.
Déconstruit.
Et c'était la même chose pour moi parce que je fais les études internationales, mais ma concentration était l'Afrique, en fait. Et on a étudié beaucoup de choses dans la culture et aussi les traditions parce qu'on pense que c'est vraiment un truc différent dans l'autre pays où on a un point de vue dans l'Europe qui est vraiment différent contre d'autres pays en Afrique. Mais c'était, par exemple, il y a une armée qui a été construite à la femme pendant, je ne sais pas, mais c'était pendant l'histoire à Bénin, qui s'appelle la Amazon. Qui combattent contre l'autre. Et ça, c'était vraiment intéressant, je crois. Parce qu'on pense que non, c'était pas la même chose.
Oui. Ok, et pour finir, si on se projette dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes femmes n'aient plus jamais à expliquer ou à justifier?
J'aimerais bien que les femmes soient formées, parce que je suis convaincue qu'on peut être formée à ça. D'avoir un meilleur rapport à leur corps, être belle, être stylée, être maigre, toutes les attentes que la société demande de nous, ça me fatigue, ça m'énerve aussi ou ça me met en colère,
oui.
Parce que mon corps n'est pas là pour te plaire. Et je ne veux pas que ma fille grandisse avec des commentaires qui sexualisent son corps. Parce que nos corps font des choses incroyables, par exemple faire naître des bébés. Donc il faut davantage aimer notre corps. Et c'est aussi la responsabilité de tout qui nous entoure.
Oui.
Oui, très bien dit. Ok, et on approche à la fin de la mission. Merci beaucoup à tous, Sarah, Léa et Clara, pour cette discussion sincère et très nécessaire. On espère que cette émission vous a fait réfléchir, peut-être vous aura fait reconnaître ou simplement vous donner envie de continuer la conversation autour de vous. Mais très important, avant de se quitter, on vous invite à découvrir la programmation proposée par Bordeaux Métropole à l'occasion de la Journée internationale des langues maternelles. Il y a beaucoup d'événements pour valoriser la diversité des langues et c'est jusqu'à 4 mars demain. Et merci de nous avoir écoutés sur Radio Audio et à très bientôt.
À bientôt.
Merci. À bientôt. Merci.
Vous avez écouté les jeunes reporters européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Salut.
Ciao.
Tchuss.
Adios.